Radio Capi.
Oh, Capi.
Le journal Pascal Massirica.
À la une ce midi au Nord Kivu, des dispositions sont prises pour la passation lundi prochain des épreuves préliminaires de l'examen d'État à Beni. La sous-division de l'EPST appelle à plus de tolérance vis-à-vis des élèves qui auraient des difficultés à s'acquitter des frais exigés. Non-respect des mesures barrières à Kinshasa contre le coronavirus, les frais d'amende infligés aux récalcitrants qui sont payés en dehors du circuit prévu finissent dans les poches de certains policiers. Notre invité, c'est le directeur général de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme en mission au Sud Kivu. René Mpourou parle de la nécessité de créer d'autres villes pour désengorger celle de Bukavu dans le cadre du projet de développement urbain financé par la Banque mondiale. Madame, messieurs, bonjour. Nord Kivu, toutes les dispositions sont prises pour la passation lundi prochain des épreuves préliminaires de l'examen d'État dans 6 centres de la sous-division de l'EPST Boulongo en territoire de Beni. Le chef de la sous-division appelle les élèves à se préparer en conséquence. Toutefois, compte tenu de la situation sécuritaire qui a provoqué le déplacement de plusieurs familles, Dominique Kambalé invite les autorités du secteur à plus de tolérance vis-à-vis de certains élèves qui auraient des difficultés à s'acquitter des frais exigés. Il a été joint par Guylaine Kassassia.
Nous avons sensibilisé les gestionnaires pour que chaque gestionnaire à son niveau puisse faire appel au chef d'établissement, que le chef d'établissement contacte les élèves. Nous avons pensé que ces élèves doivent se rendre à Boulogne. Pour les frais de participation, là ça ne relève pas de moi, c'est l'inspection qui fait le recouvrement. Là je suis conscient que nos enfants doivent avoir des difficultés. La direction connaît aussi le problème, la province éducationnelle. On ne devra pas pénaliser les enfants. Que les enfants fassent les examens, ceux qui seront à Boulogne, nous espérons qu'ils viendront. Et c'est sûr, bon, il y en a peut-être qui ne seront pas informés en temps. Là, ce sont des risques. Mais les enfants doivent venir, qu'ils se démènent, pour qu'ils se dépêchent pour être à Boulogne. Les frais de participation pourront venir. Après, on pourra parler avec l'inspection et la province éducationnelle, que les enfants viennent faire d'abord les examens.
Au Sud Kivu, pendant ces temps, les inspecteurs de l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique, persistent à boycotter le déroulement des épreuves de la session de l'examen d'État. Ils l'ont dit dans une déclaration publiée hier à Bukavu. La délégation syndicale nationale des inspecteurs de l'EPST du Congo estime que les textes légaux n'ont pas été respectés dans la fixation des frais par le gouverneur de province. Pour en parler, retrouvons à Bukavu Emmanuel Elmajou Kabedi.
La déclaration des inspecteurs de l'EPST Sud Kivu est signée par plus de 100 personnes. Pour ces inspecteurs, seul le comité provincial d'organisation de l'examen d'État a le pouvoir de fixer les frais et non un édit de l'Assemblée provinciale.
Nous refusons d'aller aux examens. Tous les injures que nous avons reçues de la part des députés, nous déclinons, nous demandons à ce qu'ils puissent eux-mêmes organiser parce qu'ils ne peuvent pas voler les parents. Nous exigeons le respect des textes légaux qui donnent au comité provincial le pouvoir de fixer les frais. Ce n'est pas par l'édit provincial.
Qu'est-ce qui va se passer le lundi si vous n'êtes pas là dans tous les centres?
Si vous allez constater l'absence des inspecteurs, ils vont se débrouiller.
Ces inspecteurs conditionnent leur participation à ces épreuves par le paiement de $40 américains par élève. L'édit de l'Assemblée provinciale fixe ces frais à $15. Par l'arrêté provincial, le gouverneur de province les a fixés à $25 par élève. Les épreuves de dissertation et orales de français démarrent le lundi 12 juillet prochain sur l'ensemble du territoire national. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Santé à présent, lutte contre le coronavirus. Pour amener les Kinois au respect des mesures barrières, les autorités de la ville de Kinshasa ont institué des amendes aux récalcitrants. Mais sur le terrain, ici à Kinshasa, beaucoup de ces frais sont payés en dehors du circuit prévu. Ils sont par conséquent négociables et finissent dans les poches de quelques policiers. C'est un reportage de Christelle Fritti.
Les amendes liées au non-respect de mesures barrières sont connues. C'est notamment 10 000 francs pour le non-port du masque, 50 000 francs pour non-respect du couvre-feu. D'après la décision prise par le gouverneur de la ville, Jean-Sini Ngobila, ces amendes doivent être payées en présence des agents de la DGRK, la direction de recettes de Kinshasa. Mais la réalité sur terrain est tout autre. Témoignage.
Les policiers n'emmènent personne au sociat. Toutes ces règles sur le champ.
Nous ne voyons aucun agent de la DGRK sur le terrain. Toutes ces règles avec le policier. Et cela dépend de ton état d'esprit. Si tu es clair, tu peux payer moins que la somme fixée.
Que ce qui justifie l'absence des agents de la DGRK sur le terrain dans plusieurs endroits. Comment mieux canaliser l'argent perçu? Charles Mboutamontou, porte-parole du gouvernement provincial, nous explique.
Souvent, pour amener la personne jusqu'au niveau du sous-commissariat, il se pose quand même des questions d'incompréhension entre l'agent. Des fois, il y a des tiraillements et ça pose problème. Il est possible que nous essayons de réévaluer, de voir comment prendre des mesures complémentaires, c'est-à-dire qu'à côté des agents qui sont placés au niveau des sous-sias, peut-être avoir des équipes ambulantes.
En attendant, les amendes perçues hors circuit continuent de faire le bonheur de quelques agents de l'ordre.
Reportage de Christelle Fritti. Et puis l'Assemblée nationale a lancé hier au Palais du Peuple, ici à Kinshasa, une campagne de dépistage volontaire contre le coronavirus. Tous les 500 députés nationaux et le personnel administratif sont concernés par ces dépistages. Initiée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodiampouanga, cette campagne vise à dépister tous les cas de coronavirus afin qu'ils soient immédiatement pris en charge. Des précisions avec vous, Michel Kefindangoy.
C'est pour se protéger contre la nouvelle variante de la pandémie à COVID-19 qui sévit actuellement en RDC et veiller à la bonne santé de tout le personnel qui œuvre au Palais du Peuple que le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodia, a exhorté les députés, personnels administratifs et des cabinets politiques à se soumettre au test COVID-19. Plusieurs députés et autres personnels de l'Assemblée nationale ont répondu à l'appel du président de la Chambre basse. On écoute ici le rapporteur de l'Assemblée nationale déjà dépisté, Joseph Lembi.
C'est un projet qui a été initié par le président Mboso, qui est un homme de famille. Aujourd'hui, c'est la matérialisation de ces projets-là. Voilà pourquoi je suis venu personnellement passer cet examen, dépistage de Covid, parce qu'il a été demandé à l'administration et aux députés de pouvoir passer ces tests. La suite, c'est la vaccination. Et si vous faites dépister tôt, et s'il arrivait que vous êtes malade, vous allez se faire soigner sitôt et vous serez guéri.
Par la même occasion, Joseph Lembi a exhorté à son tour tout le monde à se faire tester à la COVID-19. Notons par ailleurs que cette campagne de tests qui a débuté mardi se poursuit jusqu'à la fin de cette semaine.
Autre nouvelle ce midi, dans le cadre de la production des émissions liées au processus de démobilisation. Rendons-nous maintenant dans le Tanganyika pour faire un état des lieux sur la situation des groupes armés, des groupes devenus sources d'insécurité qui sévit dans la région. Embuscades, incursions dans les villages où vols de biens, viols des femmes et morts d'hommes sont déplorés là-bas. Un tableau que nous dresse François-Xavier Mibé.
D'entrée de jeu, les acteurs impliqués dans les domaines de la sécurité et d'autres ex-combattants démobilisés dans la région identifient Mundus comme l'un des principaux leaders qui organisent les groupes armés. Ces acteurs lui attribuent les groupes Mai Mai à Panapale, dont les champs d'action occupent tous les secteurs nord Lukuga du territoire des Nyonzou, une bonne partie du nord et nord-ouest du territoire des Kalemi et la partie sud du territoire des Kabambare, de la province du Maniema dans les groupements des Benyabemba. De l'avis des acteurs, le groupe Mai Mai à Panapale de Mundus étend son influence à travers des ramifications qui portent des noms qui les distinguent les uns des autres. C'est le cas par exemple du groupe Mai Mai Kabeke qui exerce son influence sur l'axe Kalemi Bendera. Ce dernier groupe interagit avec le groupe Mai Mai Persi Motonamoto. À ces groupes, il y a lieu d'ajouter les mouvements 42, les M42, composés exclusivement des membres de la communauté des Pygmées d'origine Toa. Sur cette tranche se trouve aussi le groupe Mai Mai Cœur de Lion, actif beaucoup plus dans les groupements de Benyabemba au Maniema. Il y a aussi le groupe Mai Mai Yakutumba, visible au sud Kivu, dans les territoires des Fizi. Kalemi, François Djabemibe, Radio Kapi.
Revenons un instant au sud Kivu où 60 femmes leaders sont en formation en ce moment à Uvira pour sensibiliser les groupes armés locaux et étrangers dans le cadre du programme DDRC Uvira Fizi. Les participantes reconnaissent que leurs idées, les projets et les initiatives comptent du fait qu'elles ont des frères, des époux et même des parents parmi les groupes armés locaux. Ce recyclage d'Ouvira est assuré par l'ONG SOFAD, Solidarité solidarité des femmes activistes des droits humains dans le cadre du consortium avec Interpeace et APC pour une stratégie de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Une correspondance de Fiston Goma Mayabala.
Elles sont 15 femmes leaders formées depuis lundi dernier pour 5 jours à la mairie d'Ouvira. Elles rejoignent le groupe de 45 autres déjà formés au mois de juin dernier à Louvungi dans la plaine de la Ruzizi et à Baraka et en territoire de Fizi. Ces femmes ne veulent pas rater l'opportunité de partager les idées sur la stratégie de la mise en œuvre des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire dans la région. Leur formateur Charles Bokaïa.
C'est pour une première fois que finalement on va avoir la voix des femmes de se sentir impliquées. L'idée au départ ce n'est pas d'aller directement dans la sensibilisation. L'idée c'est d'apporter leur analyse genre par rapport à ça. L'avantage c'est que c'est les femmes de toutes les communautés. Là en plein formation, vous voyez qu'ils ont des idées, ils vous expliquent que c'est nous, leur maman, il y a nos fils qui sont là-bas, il y a nos beaux-frères qui sont là-bas, dans la brousse quoi. On sait des fois là où ils se cachent, nous leur apportons la nourriture, peut-être que nous leur apportons beaucoup de choses et ils feront en sorte aussi de trouver des solutions innovantes, contribuer pour que ça puisse être une réussite.
Pour bien comprendre ces programmes, les femmes leaders communautaires apprennent les forces et faiblesses des anciens programmes CONADER et UNPDDR, ainsi que d'autres notions comme la consolidation de la paix et le plaidoyer. D'Ouvira Fiston Momayaba, la Radio Kapi.
Dans le Haut-Katanga, les creuseurs du site minier de Sassé, dans le territoire de Kambové, accusent la police nationale d'avoir tué certains d'entre eux. Ce matin, ils ont amené un des corps au siège de l'Assemblée provinciale pour dénoncer ces actes et solliciter en même temps l'implication des autorités provinciales afin que pareil incident ne se reproduise et qu'ils retournent dans ce site où ils exploitent le cuivre. Radio Okapi Lubumbashi et Jean Gandou.
Deux jours après les incidents survenus à la carrière dénommée Sassé dans le territoire de Kambove, dans le Haut-Katanga, c'est un calme précaire qui y règne. Les creuseurs artisanaux qui y travaillent sont partis. Il y en a qui sont rentrés à Lubumbashi, d'autres à Likasi, voire Kolwezi et ailleurs. D'autres encore sont installés au village Kinefumu, situé à environ 5 km de Sassé. Ils accusent les forces de l'ordre de les avoir chassés et surtout d'avoir tiré sur certains d'entre eux. Ogi Mukandila.
Nous déplorons au moins 4 morts, les 4 dupes. On prend les trois, le un ici nous l'avons ravi pour venir montrer au président de l'Assemblée provinciale.
Pour Amisi Kiunda de la coopérative minière pour le développement du Congo, il est incompréhensible que tous les carrés miniers soient vendus aux étrangers. Il se demande donc ce que deviendront les autochtones. Interrogé à ce sujet, le commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga parle plutôt d'un mort et d'après lui, il s'agirait d'un creuseur qui, dans les discussions avec les policiers, a voulu leur arracher l'arme. Toujours d'après le général Louis Segon Karawa, les discussions avaient eu lieu bien avant avec les creuseurs artisanaux pour leur faire voir que les sites qu'ils occupaient étaient une propriété était de l'entreprise minière Kipoy. Et depuis lors, les creuseurs artisanaux ont quitté ce site pour le laisser entre les mains de son propriétaire. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Bonne nouvelle pour les magistrats. La ministre d'État de la Justice annonce l'application de leur nouveau barème dès ce mois de juillet. Rose Mutombo l'a dit hier mercredi à l'issue d'une journée de réflexion sur les dysfonctionnements de la justice congolaise dans les provinces sous l'état de siège. Cette réflexion a conclu à la reprise des activités des juridictions civiles dans les matières autres que répressives, puisque ces dernières reviennent aux juridictions militaires selon la Constitution et l'ordonnance présidentielle décrétant l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri. Rose Mutombo au micro de Jeff Ngoy.
Nous tenons beaucoup à cette journée de réflexion pour que les options fondamentales puissent être prises. Je voudrais vous annoncer aussi, puisqu'il y a des magistrats parmi nous, vous avez suivi l'interview du président de la République. Il fustige le comportement des magistrats. Quand il parle des magistrats et des juges, c'est pas le ministère. Mais j'ai la responsabilité de porter politiquement tout ce qui est pouvoir judiciaire par rapport à ce qui se passe sur terrain. Je me suis battu au niveau du gouvernement pour que les nouveaux barèmes puissent commencer ce mois de juillet. Je voudrais que les magistrats qui sont avec nous puissent le dire à leurs collègues. On va être plus regardant par rapport aux magistrats. On s'est battu pour ces barèmes pendant plusieurs années, on n'a pas pu. On est arrivé à arracher ça et je voudrais vraiment qu'on sente quand même un changement réel et effectif sur terrain par rapport à la justice qui est rendue.
Notez que les magistrats et les avocats qui ont participé à cette réflexion ont également convenu du déploiement des magistrats pour couvrir les activités judiciaires dans ces deux provinces. En plus bref, le procès des massacres de Yumbi qui devait reprendre hier mercredi ici à Kinshasa a été renvoyé à une date ultérieure à cause de l'absence du juge président. Pour rappel, 2 ans et demi après ces massacres, une quarantaine des victimes se sont constituées en partie civile. Dans le box des accusés s'est trouvé près de 90 prévenus des crimes contre l'humanité, transferts forcés de population, déportations d'associations de malfaiteurs, d'incendies volontaires, de destructions méchantes, des violations de consignes, de tentatives de vol, des détentions illégales d'armes et munitions de guerre et d'usurpation des tenues de la police nationale congolaise. Nombreux parmi eux sont en fuite, d'autres en détention provisoire. Seuls 79 sont présents. Plusieurs témoins sont attendus aux prochaines audiences.
Actualité internationale.
L'onde de choc se ressent toujours en Haïti au lendemain de l'assassinat du président Moïse Jovenel. Le premier ministre par intérim Claude Joseph a pris les rênes du pays. Ce 6e premier ministre, en l'espace de 4 ans, avait quitté la primature et félicité son successeur nommé le 5 juillet dernier. Mais ce dernier n'a finalement pas pris ses fonctions avant la mort du président Jovenel Moïse. Première nuit en prison pour Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain. Africain condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice s'est rendu cette nuit à la police nationale. Il avait quitté sa résidence d'un clandan dans les KwaZulu-Natal, évitant ainsi une intervention de la police nationale. Les recours qui ont été engagés en urgence par son équipe juridique n'ont pas suffi à repousser l'ordre de l'arrêté qui a été émis par la Cour constitutionnelle. Jacob Zuma a fini par accepter de se livrer aux autorités.
L'invité.
Notre invité ce midi, c'est le directeur général de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme en mission au Sud Kivu. René Mpourou insiste sur la nécessité de créer d'autres villes pour désengorger la ville de Bukavu. Sa mission s'inscrit dans le cadre du projet de développement urbain financé par la Banque mondiale qui prévoit de doter les villes de Goma, de Bukavu, de Kikwit et de Matadi de plans urbains de référence. Il s'entretient à ces sujets avec Cynthia Bachizi Nabizana.
René Mpourou, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Le plan urbain de référence pour Bukavu, c'est quoi exactement?
C'est un outil d'urbanisme qui permet à ce que la ville de Bukavu puisse trouver des remèdes aux difficultés qu'il rencontre actuellement sur son plan de fonctionnement.
Vous pouvez peut-être nous énumérer ces difficultés rencontrées par la ville de Bukavu et que vous avez déjà, vous, pu constater?
Oui, la ville de Bukavu est très densément occupée. Vous savez bien qu'il y a des facteurs conjoncturels qui font que la population de Bukavu augmente rapidement à cause de l'insécurité dans l'arrière-pays. Il faut bien gérer cette population qui se confine dans des conditions du cadre de vie qui ne sont pas acceptables. D'où il faut trouver des stratégies pour pouvoir améliorer les conditions de logement de cette population.
Mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques anecdotes sur ce plan sur lequel vous êtes en train de réfléchir?
Nous avons produit le plan particulier d'aménagement à l'échelle d'un quartier. Nous avons trouvé des quartiers à partir des enquêtes que nous avons menées et du regard que nous avons à travers la ville qui sont à problème plus que les autres. Nous avons mené des enquêtes auprès de ménages. On a discuté avec eux et ils nous ont donné les difficultés qu'ils rencontrent dans leur cadre de vie. Voilà, nous avons des ruelles, les véhicules ne peuvent pas accéder ici. Nous avons un marché, les véhicules ne peuvent pas accéder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les maisons sont très mal placées. C'était des dépôts. Aujourd'hui, ça devient des maisons d'habitation.
L'aménagement de ce genre de quartier demandera qu'on détruise ces habitations ou toutes ces maisons qui bloquent les passages de véhicules.
Il est question de voir comment ces tracés sont faits. Pourquoi ne pas chercher des élargissements comme les chefs de quartier eux-mêmes proposent? Ils nous ont dit ça, qu'il faut des petites expropriations pour élargir et permettre un bon accès. Ou mettre ce que l'on va exproprier dans ces quartiers. Il y a des espaces intramuros qui sont vides où l'on peut reloger ces gens-là de façon convenable.
Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un travail de sensibilisation en amont? Parce que les gens qui ont construit, par exemple, sur des tracés de rue, ils ont reçu ces autorisations-là d'un service de l'État.
Avant toute production d'une ville, c'est l'urbaniste qui est le premier à arriver sur le site et à faire des dispositions à prendre. Les cadastres viennent après pour gérer les différents îlots qui sont déterminés par l'urbaniste. Donc, si on redore l'urbaniste comme à l'époque coloniale, d'aménager l'espace où les gens doivent habiter et faire voir que le cadastre viendra après, c'est ce que nous défendons à travers le PUR.
Beaucoup sont d'avis aujourd'hui qu'il faille étendre la ville de Bukavu. Qu'est-ce que vous, en tant qu'expert, vous en pensez?
Il faut étendre, oui, et il faut améliorer aussi les conditions de l'existant. La ville de Bukavu, à 2035, ne devra plus être comme ça. Il y a lieu de produire d'autres villes à la périphérie pour permettre de créer aussi d'autres villes. Ça, c'est à la dimension vraiment de l'aménagement du territoire qui doit aller de pair avec la vision de l'urbanisme habitat. On doit renforcer certaines cités qui sont à la périphérie de Bukavu pour servir d'éponge à la surdensification que l'on constate. C'est très dangereux. La ville de Bukavu qui est pendue sur des fortes pentes où on a des mouvements du sol, où on a des glissements, des effondrements, on ne peut pas laisser les gens dans ces conditions. Ces espaces peuvent être aménagés autrement, en espace vert, là où la terre bouge, là où la terre glisse, on plante les arbres, les gens se récréent et quand la terre bouge, le danger est moindre que de laisser les gens construire dans de telles conditions. Les scientifiques ont écrit, mais les gens ne comprennent pas. Des glissements qui se font, des mouvements tectoniques qui se font. On a vu des maisons fissurées. Mais pourquoi laisser les gens dans de telles conditions?
Alors, dans le cadre de ce projet, vous tablez sur l'horizon 2035. Donc, nous pouvons vous donner rendez-vous d'ici 2035 pour voir ce qu'il en sera?
Ce n'est pas nous, c'est l'autorité qui doit prendre en main les PUR et tous les documents d'urbanisme annexes pour chercher des fonds, pour essayer de résoudre tant soit peu les différents projets que nous avons dégagés.
René Mpourou, directeur général de l'Institut supérieur de l'architecture et de l'urbanisme, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
C'était l'invité de Radio Capi, le directeur général de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme en mission au Sud Kivu, interrogé par Cynthia Bachizi Nabizana. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Noël Aluzitu Kabambi qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Alain Erung Mouchige. Retrouvez ce journal sur www.radiocapi.net et sur les différentes plateformes numériques de Radio Capi. Dans un court instant, l'actualité sportive, le rendez-vous de Dieudonné Kabengalula.